Un petit vieillard vint occuper l'autre bout de mon banc. En s'asseyant, il respira profondément, fatigué de sa marche, et dit « Oui. Ah, oui !» Dès que j'entendis sa voix, ce fut comme si le vent balayait l'intérieur de ma tête. Des souliers n'étaient que des souliers, et déjà il me semblait que l'état d'égarement que je venais de vivre remontait à une époque dès longtemps révolue, peut-être une année ou deux en arrière, et qu'il était en train de s'effacer peu à peu de ma mémoire. Je me mis à regarder le vieux. En quoi pouvait-il m'intéresser, ce petit homme? En rien, pas le moins du monde, si ce n'est qu'il tenait à la main un journal, un vieux numéro avec la page d'annonce à l'extérieur, dans lequel il semblait avoir enveloppé une chose ou une autre. Ma curiosité s'éveilla et je ne pouvais détacher les yeux de ce journal. L'idée insensée me vint que ce pouvait être un journal singulier, unique en son genre. Ma curiosité croissait et je commençais à me déplacer sur le banc. Ce pouvaient être des documents, des pièces dangereuses volées dans les archives, et la pensée m'effleura d'un traité secret, une conspiration. L'homme était assis tranquillement et songeait. Pourquoi ne portait-il pas son journal comme tout autre individu porte un journal avec le titre en dehors? Qu'est-ce que c'était que ce genre de ruse? Il n'avait pas l'air de vouloir lâcher son paquet pour rien au monde. Il n'osait peut-être pas le confier à sa propre poche. J'aurais mis ma main au feu que ce paquet cachait quelque chose. Je regardais en l'air. Précisément, l'impossibilité de pénétrer ce mystère me rendait fou de curiosité. Je cherchais dans mes poches quelque chose à donner à l'homme pour lier conversation et trouvais mon carnet de coiffeur. Mais je le recachais. Subitement, j'eus l'idée de payer d'audace. Je caressais mon gousset vide et je dis « Puis-je vous offrir une cigarette ?»« Merci !» L'homme ne fumait pas, il avait dû cesser pour ménager ses yeux. Il était presque aveugle. « Je vous remercie beaucoup du reste. » Y avait-il longtemps que ses yeux étaient malades? Alors peut-être ne pouvait-il non plus lire? Pas même les journaux? Pas même les journaux, malheureusement. L'homme me regarda. Ses yeux malades avaient chacun une taie qui leur donnait un aspect vitreux. Son regard était blanc et faisait une impression répugnante. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-il. « Non. Ne pouvait-il même pas lire le titre du journal qu'il tenait à la main ?»« À peine. Du reste, il avait tout de suite entendu que j'étais étranger. Il y avait dans mon intonation quelque chose qui le lui disait. Il lui en fallait si peu, il avait l'ouïe si fine. La nuit, quand tout le monde dormait, il pouvait entendre les gens respirer dans la chambre voisine. « Que voulais-je dire? Où demeurez-vous ?» Instantanément, un mensonge surgit tout près dans ma tête. Je mentis contre ma volonté, sans dessein et sans arrière-pensée, et je répondis « Place Saint-Olaf, numéro 2 ». Vraiment ? L'homme connaissait chaque pavé de la place Saint-Olaf. Il y avait une fontaine, quelques becs de gaz, deux arbres, il se rappelait tout. « À quel numéro demeurez-vous ? » Je voulus en finir et me levai, poussé à bout par l'idée fixe de ce journal. Il fallait éclaircir ce mystère coûte que coûte. « Puisque vous ne pouvez pas lire ce journal, pourquoi au numéro 2 avez-vous dit, je crois ?» continua l'homme sans prêter attention à mon agitation. « Il fut un temps où je connaissais tout le monde au numéro 2. Comment s'appelle votre propriétaire ?» En toute hâte, j'inventai un nom pour me débarrasser de lui. Je fabriquais ce nom sur le champ et je le projetais dans l'espace pour arrêter mon persécuteur. « Apolati, » dis-je. « Apolati, oui !» approuva l'homme sans perdre une syllabe de ce nom difficile. Je le regardais avec étonnement. Il gardait tout son sérieux, il avait une mine réfléchie. Je n'avais pas plutôt prononcé ce nom stupide qui m'était venu à l'esprit que l'homme le reconnaissait et feignait de l'avoir déjà entendu. Entre-temps, il posa son paquet sur le banc et je sentis toute ma curiosité vibrer dans mes nerfs. Je remarquai qu'il y avait sur le journal quelques taches de graisse. « N'est-il pas marin, votre propriétaire ?» demanda l'homme. Il n'y avait pas trace d'ironie dans sa voix. « Je crois me rappeler qu'il était marin. » « Marin, faites excuse, ce doit être son frère que vous connaissez. Celui-ci est en effet J.A. Apolati, agent. » Je croyais que ceci allait l'achever, mais l'homme se prêtait à tout. « Il paraît que c'est un habile homme, à ce qu'on m'a dit, » fit-il pour tâter le terrain. « Oh, c'est un roublard, » répondis-je, « une fameuse tête pour les affaires, agent pour n'importe quoi, RL pour la Chine, plumes et duvets de Russie, peau, pâte de bois, encre. Eh, bougre de bougre !» interrompit le vieillard tout ragaillardi. Ça commençait à devenir intéressant. Je n'étais plus maître de la situation. L'un après l'autre, les mensonges surgissaient dans ma tête. Je me rassis. J'avais oublié le journal, les documents mystérieux. Je m'excitais et coupais la parole à mon interlocuteur. La naïveté du petit nain me rendait téméraire. Je voulais l'abreuver de mensonges, sans ménagement, le mettre en déroute grandiosement. Avait-il entendu parler du psautier électrique que Apolati avait inventé ? Quoi ? Électrique ? Oui, avec des lettres électriques qui devenaient lumineuses dans l'obscurité. Une entreprise absolument colossale, des millions de couronnes en mouvement, des fonderies et des imprimeries en pleine activité, des légions de mécaniciens occupés avec des appointements fixes. J'avais entendu parler de 700 hommes. Qu'est-ce que je vous disais ? Fit l'homme tout doucement. Il n'en dit pas davantage. Il croyait tout ce que je racontais, mot pour mot, et néanmoins il n'était pas frappé de stupeur. Ça me déçut presque. J'avais espéré le voir affolé par mes inventions. J'imaginais encore quelques mensonges, sans que ni tête au petit bonheur. Je lui fis entendre que Hapolati avait été 9 ans ministre en Perse. « Vous ne vous faites peut-être pas l'idée de ce que cela représente d'être ministre en Perse, » demandai-je. « C'est plus que roi ici, c'est à peu près comme sultan, s'il savait ce que c'était qu'un sultan. » Mais Hapolati était venu à bout de tout, jamais une anicroche, et je racontais Olayali, sa fille, une fée, une princesse qui avait 300 esclaves et dormait sur une couverture de roses jaunes. C'était la plus belle créature que j'eusse jamais vue. Dieu me confonde si de ma vie, j'avais jamais vécu pareille vision. « Ah, elle était si belle !» proféra le vieillard d'un air absent, les yeux à terre. « Belle ! Elle était adorable. Elle était charmante à damner un saint, des yeux couleur de soie sauvage, des bras d'ambre. » Un simple regard d'elle vous séduisait comme un baiser, et quand elle m'appelait, sa voix me pénétrait jusqu'au cœur comme un jet de vin. Et pourquoi ne serait-elle pas aussi ravissante? La prenait-il pour un garçon de caisse ou un sapeur-pompier? C'était tout simplement une splendeur du ciel, je lui en donnais ma parole, un conte de fées. « Oui, 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 » fit l'homme quelque peu interloqué. Son calme m'ennuyait. Je m'étais monté à écouter ma propre voix et je parlais avec le plus grand sérieux. Les documents volés, le traité avec une puissance étrangère étaient sortis de ma pensée. Le petit paquet plat s'étendait sur le banc entre nous deux et je n'avais plus la moindre envie de l'examiner pour voir ce qu'il contenait. J'étais complètement pris par mes propres histoires. D'étranges visions passaient devant mes yeux. Le sang me montait à la tête et je mentais à pleine gorge. À ce moment-là, l'homme fit mine de vouloir partir. Il se souleva sur le banc et demanda, pour ne pas rompre trop brusquement l'entretien, « Il passe pour avoir de grandes propriétés, cet Hapolati. » Comment ce vieil aveugle dégoûtant osait-il jongler avec ce nom étrange, composé par moi, comme si c'était un nom ordinaire qu'on trouvait sur toutes les enseignes d'épiciers de la ville? Il n'en oubliait pas une syllabe et jamais ne bronchait sur une lettre. Ce nom s'était incrusté dans son cerveau et y avait pris racine du premier coup. Ça m'agaçait. Une profonde exaspération montait en moi contre cet individu que rien ne pouvait désarçonner, dont rien n'éveillait la méfiance. « Je n'en ai pas idée, » répondis-je sèchement. « Je n'en ai pas la moindre idée. Du reste, laissez-moi vous dire une fois pour toutes qu'il s'appelle Johann Arendt Hapolati, à en juger d'après ses initiales. « Johann Arendt Hapolati, » répéta l'homme, étonné de ma violence. Puis il se tut. « Vous auriez dû voir sa femme, » dis-je avec rage. « Plus grosse personne, hein, vous ne croyez peut-être pas qu'elle était autrement grosse ?»« Si, si, il lui semblait bien, un pareil homme. » À chacune de mes sorties, le vieillard répondait avec calme et douceur, en cherchant ses mots comme s'il avait peur de faire un impair et de me mettre en colère. « Palsambleu, bonhomme ! Vous croyez peut-être que je m'amuse à vous bourrer de mensonges ?» criai-je hors de moi. « Vous ne croyez peut-être même pas qu'il existe un homme du nom de Hapolati ?» « Je n'ai jamais vu pareille arrogance et pareille méchanceté chez un vieillard. Que diable vous prend-il ? Et par-dessus le marché, vous avez peut-être pensé à part que j'étais pauvre comme Job parce que j'étais en grande toilette sans avoir dans ma poche un étui de cigarette plein. Je ne suis pas habitué à des procédés dans ce genre, je dois vous en aviser. Et Dieu m'est témoin que je ne les tolérerai ni de vous ni de quiconque. Tenez-vous-le pour dit. »
L'homme s'était levé. Bouche bée, sans une parole, il écouta ma diatribe jusqu'au bout. Puis il ramassa vivement son paquet sur le banc et partit, remonta l'allée presque en courant, à petits pas séniles. Je restais assis, regardant son dos qui disparaissait peu à peu et semblait se courber et se rétrécir de plus en plus. Je ne sais d'où me vint cette impression, mais il me sembla que je n'avais jamais vu un dos plus malhonnête, plus vicieux, et je n'eus aucun remords d'avoir copieusement injurié l'individu avant qu'il me quittât.